Merci beaucoup. Roland Matra, je vous propose de poursuivre. Comme ça, on prendra, je pense, la série des questions après l'ensemble des interventions. Alors, on va partir dans les Pays de la Loire.
Excusez-moi. Voilà, donc effectivement au niveau Pays de la Loire, on suit cette thématique-là depuis maintenant une bonne quinzaine d'années. Principalement, majoritairement, effectivement sur les espèces végétales. Alors on vient de commencer, voici un an ou deux, un travail aussi de coordination sur les espèces animales. Mais on en est encore aux prémices en commençant à mettre en place des actions sur les écrevisses et l'exénoplis en particulier. Donc là, c'est simplement pour illustrer rapidement le système d'organisation. C'est pour illustrer effectivement le système d'organisation qu'on a adopté dans notre région. Donc on a principalement trois niveaux. Le niveau régional que je vais vous détailler un petit peu plus tard. Donc le niveau départemental, hein, qui est un niveau piloté principalement par les conseils généraux. Alors, conseils généraux, d'ailleurs, de plus en plus dans toutes leurs facettes, si j'ose dire, c'est-à-dire non seulement les milieux, les services qui traitent des questions d'eau ou d'environnement, mais aussi les services traitant des infrastructures et des domaines routiers, ce qui est un point important pour certaines espèces invasives. Donc les conseils généraux et les fédérations de pêche, hein, puisque historiquement, on a commencé effectivement plus à s'intéresser aux espèces végétales aquatiques, au milieu terrestre. Et puis le dernier niveau, qui est le niveau local, hein, qui est probablement le plus important, puisque c'est dans ce vivier-là qu'on va trouver à la fois les gens qui observent. Sans les observateurs, je dirais qu'on ne ferait rien, on ne ferait rien de plus. Ceux qui gèrent, enfin ceux qui interviennent, ceux qui préviennent, et je dirais aussi, et c'est souvent assez intéressant, c'est ceux qui interpellent et qui remettent d'ailleurs parfois fortement en cause les certitudes qu'on croit avoir au niveau supérieur. Là, c'est simplement pour vous dire que le système en fait, d'organisation qu'on peut avoir dans notre région, on le trouve dans d'autres régions à l'échelle du bassin de la Loire. Donc on a des organisations un peu similaires, avec une animation générale de la Fédération des conservatoires d'espaces naturels, ce qui a permis de mettre en place un certain nombre de documents, de produire un certain nombre de guides, et beaucoup plus récemment, une stratégie donc, d'action partagée hein, entre les différentes régions du bassin qui vient d'être publiée. Alors, au niveau régional, on a fait le choix dès le départ, hein, donc dès le début des années 2000, d'avoir un travail collaboratif, partenarial, entre les techniciens, les gestionnaires de différents niveaux et les chercheurs et universitaires. Donc ça a été vraiment une volonté dès le départ. Ce partenariat-là ne porte pas, vous avez un petit peu le détail, ne porte pas que sur des études ponctuelles, hein, parce que sinon les études ponctuelles, on sait souvent ce que ça devient, on n'en entend plus parler après. L'idée, c'est d'avoir un peu une permanence d'interaction entre chercheurs et gestionnaires. Et ceci, et je le dis parce que je pense que c'est important dans un souci de transparence et de respect mutuel. C'est-à-dire que personne n'estime être n'en savoir plus que les autres. Bon, on verra après ma conclusion un petit peu sur le sujet. Donc ce qui nous permet en particulier d'avoir un réseau d'experts hein, qui ne marche pas trop mal hein, qui se fait un petit peu à la demande en fonction des questions des uns et des autres. Et puis pour tout le reste, hein, c'est-à-dire tout ce qui est de l'acquisition, de la mise à jour, de la compilation des connaissances, toutes les questions de suivi, de cartographie, de plans de communication ou de journées ou de formation hein, ou d'organisation de formation. Tout ça, on le gère avec, dans le cadre d'une seconde commission. Hein, bon, là, c'est un petit peu de la cuisine interne, mais auquel, pour le coup, les gestionnaires et les techniciens sont beaucoup plus partie prenante que pour la précédente commission. Mais ni dans l'une ni dans l'autre, on a absence des chercheurs et des gestionnaires. Je veux vraiment insister sur cette interactivité et ce partenariat, je dirais, un petit peu permanent, finalement. Alors, pourquoi un réseau ? J'ai déjà donné quelques pistes à l'instant, mais pourquoi un réseau et quel rôle l'Union régionale ? Alors, pourquoi on a voulu vraiment créer un réseau et surtout le renforcer ? C'est parce que ça coûte cher, en fait, cette question de gestion des espèces invasives. Ça coûte cher et on ne sait pas trop les résultats qu'on a, en fait, avec tout cet argent investi. Bon, on est arrivé avec une petite estimation qu'on avait faite sur les chantiers entre les années 90 et les années 2000-2010, d'à peu près 6 millions d'euros. Et c'est peut-être 10 millions plutôt que 6 millions, d'ailleurs. Ça, non, c'est trop rien. Des aides, évidemment, comme vous le savez tous, pas illimitées. Hein, quels que soient les départements et quelle que soit l'agence de l'eau, on est arrivé d'ailleurs chez nous un peu à des limites. Et puis les collectivités qui se retrouvent avec des budgets également importants et sans certitude d'efficacité. Donc il faut absolument optimiser la gestion. Donc c'est ce qu'on essaye de faire désespérément, je dirais parfois, hein, mais depuis quelques années. Donc renforcer les collaborations entre gestionnaires et scientifiques, je viens d'en parler. Pérenniser les réseaux et pour ça, avoir des outils, quels qu'ils soient, partagés. Donc, des supports de communication, il faut vraiment avoir des documents de communication pour les techniciens et grand public. Donc, c'est vrai qu'on a l'impression un petit peu de produire sans cesse de la plaquette. C'est vrai, il ne faut pas non plus exagérer là-dessus, mais c'est important d'en avoir, d'avoir ces outils-là et de les mettre à jour. Les outils techniques de gestion, c'est important parce que sur la gestion, en tout cas des espèces végétales, on connaît maintenant beaucoup de choses. On sait les choses qui marchent, on sait ce qui ne marche pas trop bien. Bon, on n'a encore pas de certitude, bien sûr, mais... Donc ça, il faut des outils qui regroupent un petit peu tout ça. La formation, c'est vital, alors non seulement sur la reconnaissance des espèces invasives, mais aussi sur celles qui ne le sont pas. Parce qu'il y a effectivement, on parlait tout à l'heure, dramatisation ou diabolisation des espèces végétales. On a parfois, nous, de la surmotivation. C'est-à-dire, on a parfois des techniciens qui en voient partout. Tout devient dangereux, tout devient suspect, donc il faut effectivement après essayer de, relativiser, c'est-à-dire de faire la part des choses. Donc la formation, c'est très important. Alors, on a parlé des bases de données, des SIG. Bon, il ne s'agit pas forcément de se bagarrer sur quelle base de données va être la meilleure, etc. En tout cas, ce qui est important, c'est de faire du partenariat et d'avoir une application. Nous, on a fait le choix d'avoir une application de saisie commune, où on partage les champs. Après, si les uns et les autres souhaitent développer des bases de données, je dirais à la limite, ça les regarde. Hein. Ce qu'il faut, c'est qu'à un moment donné, ça soit cohérent, les choses puissent s'alimenter, qu'on ait des champs communs. Voilà. Et après, on a travaillé sur un plan de suivi partagé pluriannuel, hein, sachant qu'on ne peut pas travailler sur toutes les espèces en même temps, mais vous verrez après dans ma conclusion qui arrive bientôt, sur le problème que posent les listes d'espèces, en fait. Mettre en place un appui technique et méthodologique, là, c'est un résumé de ce que je vous ai dit à l'instant sur le partenariat avec les scientifiques et les collectivités. Et ça, c'est un partenariat de tous les instants. Il faut qu'il y ait de la confiance, en fait, qui s'établisse. Sinon, on n'arrive pas à grand-chose. Je vous ai donné quelques exemples, des suivis qu'on réalise maintenant et des appuis techniques qu'on réalise depuis une quinzaine d'années dans la région. Donc le niveau départemental, je ne vais pas redétailler, je l'ai dit un peu tout à l'heure, c'est surtout Conseil Général Fédération Pêche, mais un rôle de plus en plus important chez nous des directions, des DDT, hein, des directions départementales des territoires, surtout parce qu'il y a maintenant des impacts sur le milieu agricole qui commencent à être de plus en plus importants, avec le développement des jussies, en particulier sur les prairies, dont vous avez, je pense, chez vous et dont vous avez peut-être entendu parler. Donc on a des objectifs et des rôles du niveau départemental qui vont être un peu similaires finalement, mais à une échelle différente, hein, c'est-à-dire ils sont en contact direct avec les gestionnaires. Donc il faut qu'ils organisent la lutte, il faut qu'ils suivent le niveau départemental d'envahissement, qu'ils suivent les chantiers. On essaye de récupérer régulièrement annuellement des informations sur les chantiers, et c'est évidemment un relais pour le niveau régional. Donc voilà, ça c'est juste une illustration de l'emprise du réseau d'observateurs. On arrive, grosso modo maintenant, dans les différents départements, à avoir une bonne couverture géographique. Et c'est important parce que c'est quand même la clé de tout. Hein. Une clé importante, en tout cas. Alors, on espère aller vers la mise en œuvre du stratégie. Hein. Ce travail-là, en fait, a commencé avec l'inventaire. Alors, on dit souvent beaucoup de mal des listes. C'est vrai que ça pose beaucoup de débats, ça pose beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de disputes. On parlait tout à l'heure au début de disputes. Hein. Mais il n'en demeure pas moins que je considère que c'est quand même une base scientifique nécessaire pour effectivement avoir un point de départ. Donc ce travail-là, il a été fait en 2008. Et dans la foulée, on a validé en fait une stratégie régionale en 2010 avec trois éléments importants, hein, il y en a plein d'autres, mais c'est avoir des priorités d'action. Donc nous, c'est focalisé sur les espèces émergentes, considérant que les espèces installées, on ne les éradiquera pas. Tout au plus, on peut essayer de les contenir par-ci, par-là. Les émergentes, on peut encore faire quelque chose. Mieux connaître pour mieux gérer, donc c'est élargir en fait le réseau d'observateurs. Hein. Donc je parlais tout à l'heure des services infrastructures, des conseils généraux. Et puis surtout travailler en amont. Alors on a essayé de développer en fait des contacts avec des professionnels, en particulier d'horticulture, parce que comme vous le savez, il n'y a pas d'interdiction sur aucune plante, sauf la jussie. Donc on essaye, donc j'espère que ça va aboutir assez rapidement pour avoir un peu un code de conduite avec un certain nombre de professionnels de l'horticulture, mais également des collectivités locales hein, qui s'engageraient par exemple à ne pas planter ces espèces-là et à plutôt privilégier des espèces locales. Conclusion, donc en Pays de la Loire, on a des réseaux fonctionnels en général, hein, donc bon, voilà, une stratégie, mais après, il y a quand même trois petits points, mais évidemment, plein de difficultés. Donc la disponibilité et la motivation des observateurs, qu'il faut évidemment sans cesse relayer, parce qu'il n'y a pas spécialement d'argent pour faire ça en plus. Hein. Souvent, ils font ça... Alors, il y a effectivement des contrats avec l'Agence de l'eau qui permettent souvent de prendre en charge ces actions-là, mais pas toujours. Je vous ai parlé tout à l'heure, là, c'est la sous-motivation, mais on a parfois la surmotivation qu'il faut aussi effectivement gérer. Du coup, l'exhaustivité et l'actualisation des observations qui n'est pas toujours le cas. Il faut qu'on ait une bonne cohérence, compatibilité des modalités de suivi, ça c'est la question base des données, système d'information. Hein. Le suivi d'espèces de plus en plus nombreuses, bon ça c'est le problème des listes, hein. C'est une liste avec 120 espèces, comment voulez-vous que le technicien suive 120 espèces chaque année? C'est complètement impossible. Donc du coup, on essaye de prioriser un petit peu tout ça. Sur les aspects plus de gestion, bon, sur la question des émergences, c'est d'arriver à mettre en place un système de détection précoce et intervention rapide. Alors détection précoce, on va peut-être y arriver, intervention rapide, ça va être plus difficile en fait à l'avoir systématiquement. Et puis bah, une autre clé de l'affaire, c'est les questions de financement. Hein. Bon, on est bien obligé d'en parler. Non seulement des actions de gestion, on arrive aux limites des possibilités de financement des financeurs. Et puis c'est le financement des suivis scientifiques, hein, parce que j'allais dire un chercheur coûte cher, c'est pour être un peu provocateur, mais coûte, c'est normal d'ailleurs que ça coûte, hein, c'est pas anodin. Donc il faut effectivement trouver les financements. Alors jusque-là, on les a trouvés tant bien que mal, mais ça va peut-être pas être toujours le cas. Et puis surtout, l'évaluation du rapport coût-efficacité qui demeure encore à faire, et des questions sur l'aspect réglementaire, dont l'intervention sur le domaine privé qui nous pose vraiment beaucoup de soucis. Alors, je voulais juste conclure en disant que ce qu'on peut... Je l'ai écrit pour ne pas l'oublier parce que je ne l'ai pas mis sur la diapositive. Se pose-t-on les bonnes questions? Fait-on les bons choix? Alors, j'ai aucune réponse à tout ça. Ce dont je suis à peu près sûr, c'est qu'il faut toujours se remettre en question, en fait, hein, sur ce sujet-là, peut-être comme sur d'autres. Hein, et à vrai dire, qu'on soit gestionnaire, qu'on soit chercheur, scientifique, ou qu'on soit service de l'État, parce que je ne vais pas m'oublier dans l'affaire. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup.